Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'assassinat du préfet Claude Erignac. Le 6 février 1998, le préfet de Corse est assassiné dans les rues d'Ajaccio. Une transgression absolue. C'est le premier préfet assassiné en France, le premier haut représentant de l'État depuis la Libération. Derrière cette exécution, c'est la République qu'on attaque. L'émotion dans toute la France est à la mesure du symbole. S'ouvre alors l'une des plus grandes affaires politico-judiciaires de ces dernières décennies, l'une des plus complexes également. L'affaire Erignac nous plonge au cœur du contexte corse, à un moment charnière de la lutte des mouvements nationalistes. Cet attentat perpétré contre le plus haut représentant de l'État français sur le territoire insulaire en est le point d'orgue et l'acte le plus grave dans cette lutte de libération nationale que mènent les militants indépendantistes depuis 30 ans. L'enquête qui suit l'assassinat du préfet se déroule sur plusieurs mois. Et malgré des moyens impressionnants, elle présente de nombreuses failles, d'incroyables rebondissements sur fond de rivalité entre les différents services de police et d'un contexte politique tendu par la cohabitation émaille les avancées policières et judiciaires. De l'arrestation des membres du commando à leur procès, en passant par l'incroyable cavale du principal suspect, Yvan Colonna, le dossier Erignac, hautement sensible, révèle à quel point l'île de Beauté est trop souvent la terre de bien des exceptions. En seconde partie d'émission, nous recevrons Gilbert Thil, l'ancien juge d'instruction à la section antiterroriste. Il était en charge avec ses collègues Bruguière et Levert de l'affaire Erignac. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Éric Mainvielle.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Ajaccio, Corse du Sud, le 6 février 1998. Il est 9h10, vendredi soir, quand le préfet Claude Erignac, en compagnie de sa femme, Dominique, quitte le palais de l'Antivie qui abrite la préfecture. Le couple va assister à un concert de musique classique au théâtre Calisté, situé à quelques kilomètres de là. Ce haut fonctionnaire, en poste depuis 2 ans, est réputé pour ses habitudes de simplicité. On le voit souvent à vélo dans la ville ou le dimanche sur la place du marché. Il n'a pas de chauffeur ou de protection rapprochée, non. Non, il conduit lui-même sa voiture, ce soir-là. À la recherche d'une place pour se garer, il laisse sa femme descendre devant le théâtre et se dirige vers le cours Napoléon, perpendiculaire à l'avenue Jean Colonna d'Ornano, où se trouve le théâtre. Claude Erignac trouve une place et remonte ensuite l'avenue à pied. À 21h06, des coups de feu retentissent. Claude Erignac s'écroule. Une première balle l'atteint dans la nuque, le tireur est dans son dos. Il s'avance et devant le préfet à terre, l'achève de 2 balles dans la tête. Des témoins assistent à la scène. Le tireur, d'un calme absolu, toise l'un d'eux pendant plusieurs secondes. Accompagné d'un autre homme, il prend le temps de sortir le chargeur de son pistolet et dépose son arme à côté du corps du préfet avant de prendre la fuite. Il faut à peine quelques minutes pour que la nouvelle de l'assassinat de Claude Erignac se propage. L'agitation gagne peu à peu la salle du théâtre, puis le voisinage et bientôt l'île tout entière. Les programmes télévisés s'interrompent pour relayer l'information.
Bonsoir à tous. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir à Ajaccio par 2 inconnus.
On peut pas faire une Corse avec des gens qui tuent, c'est pas possible.
Claude Erignac, 60 ans, originaire de Mende, en Lozère, avait fait toute sa carrière dans les cabinets ministériels et le corps préfectoral, nommé par le gouvernement Juppé il y a 2 ans. Au moment où il a été tué, Claude Erignac, sans protection particulière, s'apprêtait à rejoindre son épouse dans un théâtre en ville afin d'y assister à un concert de musique classique.
Mais c'est très grave pour la Corse, madame, c'est tout ce que j'ai à dire.
S'il vous plaît, je vous demande de faire silence.
Oui, monsieur le Président. Nous venons d'apprendre l'assassinat en pleine rue du préfet de Corse, monsieur Claude Erignac. Pour dire notre indignation, je crois, unanime face à cet acte odieux, je vous demande de bien vouloir interrompre nos travaux quelques instants et de bien vouloir avoir tous ensemble quelques instants de recueillement.
Il n'y a pas de mots. C'est lâche. C'est immonde. C'est tout ce qu'on veut. Et pour le préfet. Et pour tout ce qui se passe en Corse.
« Inévitablement, c'est la stupeur et l'effroi qui dominent à l'annonce de l'assassinat du préfet Claude Erignac. L'émotion est unanime. Sur l'île, comme en métropole, les drapeaux sont en berne parce que le contraste est fort entre la violence de l'acte et la réputation de la victime, connue pour être ferme, certes, mais juste et profondément attachée à l'idée de la République. Âgé de 60 ans, ce haut fonctionnaire à la carrière exemplaire était proche de la retraite. Depuis 30 ans, la Corse est le théâtre d'une lutte sans fin menée par les militants indépendantistes contre l'État français qu'ils considèrent comme État colonial. Au nom du FLNC, le Front de Libération Nationale Corse, créé en 1976, de nombreux attentats sont commis au cours de ce qu'on appelle les nuits bleues contre des bâtiments publics ou des représentants de l'État. L'organisation, considérée comme terroriste par les autorités nationales, est basée sur la clandestinité et se dit financée par ce qu'elle appelle l'impôt révolutionnaire, du racket en fait. Face à cette situation, les gouvernements successifs alternent discours de fermeté et périodes de négociation. De ce côté, le mouvement nationaliste connaît de nombreuses crises, notamment au milieu des années 90, avec la scission entre le FLNC Canal Historique et le FLNC Canal Habituel. Au cœur de cette rupture, il y a une opposition sur l'attitude à adopter vis-à-vis de l'État. Les règlements de compte internes se multiplient, la rupture s'amplifie au sein du mouvement et pousse à la radicalisation d'une partie de ses membres. C'est dans ce contexte troublé que survient l'assassinat du préfet Erignac. La classe politique prend les devants. Le Premier ministre, Lionel Jospin, dénonce un acte abject et inqualifiable. Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, parle de cause sacrée, se rend immédiatement à Ajaccio pour superviser l'enquête. Enfin, Jacques Chirac, le président de la République, prend la parole dès le lendemain. Dans cette froide journée d'hiver du 7 février 1998, les traits tirés, vêtus d'un manteau et d'une écharpe noire, Jacques Chirac s'avance sur le perron d'Élysée.
L'assassinat du représentant de l'État en Corse est un acte barbare, d'une extrême gravité et sans précédent dans notre histoire. J'ai exprimé personnellement à Madame Erignac et à ses enfants, au nom de tous les Français, mon émotion et mes condoléances. Claude Erignac était un grand serviteur de l'État, qui mettait toute son énergie, tout son cœur, au service de sa mission en Corse. Je souhaite que toute la lumière soit faite le plus rapidement possible par les services chargés de l'enquête et que la justice puisse punir les responsables de ce crime odieux.
L'enquête démarre sur les chapeaux de roue. Des moyens importants sont mis à disposition des autorités. Sur place, la police judiciaire d'Ajaccio est en charge des premières opérations. Elle est rapidement rejointe par la division nationale antiterroriste menée par Roger Marion. D'emblée, la tension est prégnante entre les deux entités. Roger Marion est pour le moins surpris de constater que la rue où a eu lieu l'assassinat du préfet est rendue à la circulation dès le lendemain du drame. Les téléspectateurs assistent alors, médusés, à l'interview d'un passant qui découvre en direct, face à la caméra, une douille de l'arme utilisée. L'arme du crime, justement, c'est le seul élément matériel qu'ont les enquêteurs. Aucune empreinte. Les témoins parlent de deux ou trois hommes de taille moyenne, de type méditerranéen, un brun et un blond. Certains évoquent, sans être sûrs, le port d'une perruque. C'est donc l'arme du crime qui concentre toute l'attention. D'ailleurs, la façon dont le tireur l'a laissée sur les lieux ressemble à une signature. Hypothèse rapidement confirmée, le numéro de série du Beretta 9 mm renvoie à une arme volée au cours de l'attaque d'une gendarmerie à Pietrosella qui a eu lieu le 6 septembre 1997, quelques mois avant l'assassinat du préfet. Le 9 février 1998, trois jours après l'assassinat de Claude Erignac, un texte de revendication parvient aux enquêteurs. Il est signé par un groupe baptisé « Les Anonymes ». Il mentionne le numéro de série de l'arme du crime qui confirme les liens entre l'assassinat du préfet et une série d'actions antérieures. Celle de la gendarmerie donc, mais aussi des attentats contre l'ENA à Strasbourg et des établissements thermaux à Vichy. Dans le texte, ces assassins accusent Claude Erignac d'avoir incarné l'action d'un État colonial sourd aux revendications nationalistes. De son côté, pour réaffirmer sa reprise en main, le gouvernement nomme un nouveau préfet, Bernard Bonnet, quelques jours seulement après la mort de Claude Erignac.
Les plus hautes autorités de l'État se sont exprimées avec beaucoup de force en insistant sur le fait que dans cette île, les lois de la République doivent être appliquées sans défaillance et s'appliquer à tout le monde. Car ce qui me frappe dans cette île en reprenant contact, c'est ce besoin de justice ressenti par la population qui souhaiterait que l'autorité de l'État s'exerce de manière égale pour tous, et également ce besoin de paix.
Bernard Bonnet est précédé d'une réputation d'homme ferme et efficace. Une image que veulent renvoyer les autorités. D'ailleurs, une vague de répression s'abat sur la Corse. Des centaines de personnes sont arrêtées dans le rang des nationalistes. En plus des textes de revendication, le nouveau préfet s'appuie sur deux autres communiqués diffusés par un mystérieux groupe Sampierou quelques mois avant l'assassinat du préfet. Dans l'un d'eux sont évoquées des menaces justement contre les hauts représentants de l'État en Corse. Ce qui ressort surtout de ces deux communiqués, c'est qu'ils mettent en cause, à mots à peine couverts, un certain Marcel Lorenzoni. Cet agriculteur, ancien militaire, militant nationaliste bien connu des renseignements généraux, est le leader du mouvement de contestation contre l'endettement agricole des paysans corses. Il s'agit du dossier le plus sensible sur lequel travaillait Claude Erignac avant son exécution. Pour les enquêteurs, Marcel Lorenzoni est donc le principal suspect dans ce qu'on appelle la piste agricole. D'autant qu'on retrouve chez lui des armes et des explosifs. Il est rapidement mis en examen et incarcéré, mais il nie tout en bloc. Le temps passe, les enquêteurs approfondissent une piste agricole qui s'enlise à mesure que les mois filent. En décembre 1998, 10 mois après l'assassinat du préfet Erignac, plus de 300 personnes ont été entendues, des dizaines mises en examen, mais sans aucun résultat probant. Le dossier est au point mort. Et c'est une toute autre affaire qui lui donne un coup d'accélérateur.
Au lendemain de l'assassinat du préfet Erignac en Corse, il y a plus d'un an, le gouvernement français avait choisi Bernard Bonnet pour rétablir l'état de droit dans l'île. Et le nouveau préfet avait lui-même choisi la gendarmerie pour conduire son opération main propre. La gendarmerie parce que c'était l'armée, la République, l'obéissance, la discipline. En voilà qu'on apprend aujourd'hui que 3 gendarmes auraient eux-mêmes organisé un attentat et incendié un restaurant de plage d'Ajaccio en tentant de faire porter le chapeau aux nationalistes. Et voilà donc que tout l'édifice s'effondre. Les gendarmes, le préfet, l'État, la République. Si l'un ment, les autres peuvent mentir aussi. Le doute est là, désormais.
En avril 1999, alors que le dossier du préfet Erignac patine depuis plus d'un an, Bernard Bonnet et son successeur font la une de l'actualité. Quelques jours auparavant, dans la nuit du 19 avril, un incendie criminel a ravagé la paillote chez Francis, une opération de barbouze lamentable. Après une enquête rapide, 5 gendarmes sont arrêtés. Et ils reconnaissent l'incendie volontaire de la paillote et expliquent que l'action a été ordonnée par le préfet Bernard Bonnet, qui est à son tour incarcéré. Un préfet assassiné, son successeur en prison, pourrait presque en sourire si l'affaire n'était pas si dramatique. Le 18 mai 1999, la femme de Bernard Bonnet, sur demande de son mari, donne une interview à La Voix du Nord, dans laquelle elle déclare que son époux a notifié depuis plusieurs mois les noms des hommes qui ont participé à l'assassinat du préfet. C'est ainsi que l'affaire des paillotes relance le dossier Erignac. Pourquoi cette menace, qui ressemble fortement à du chantage, est-elle lancée par Bonnet depuis sa cellule? Pour comprendre la situation, il faut revenir quelques mois en arrière. Dès son arrivée en poste, Bernard Bonnet, alors qu'il n'en a ni les prérogatives, ni les compétences, décide de mener sa propre enquête, avec l'appui des gendarmes du groupe de peloton de sécurité. Il commence à voir, à plusieurs reprises, un informateur secret, qu'il surnomme Corté. Or, ce Corté se révèle rapidement bavard et plutôt bien informé. Il donne les noms de plusieurs membres du groupe qui auraient organisé l'assassinat de Claude Erignac. Problème. Bernard Bonnet se garde bien de prévenir Roger Marion à la DNAT ainsi que les juges d'instruction en charge du dossier. Non, c'est à Matignon qu'il adresse ses notes. Situation chaotique où plusieurs enquêtes sont menées parallèlement, avec des services de police et de gendarmerie en concurrence et un préfet qui outrepasse largement ses fonctions. La situation vire à la crise politique. Les députés de l'opposition déposent une motion de censure contre le gouvernement Jospin. Les autorités se doivent de réagir. Le 21 mai 1999, l'information tombe.
En Corse, les policiers ont ratissé large ces dernières heures. Hier et aujourd'hui, ils ont interpellé ou interrogé une douzaine de personnes proches du militant nationaliste Alain Ferrandi, lui-même arrêté. Six personnes ont été transférées à Paris et les compagnes de trois d'entre eux sont toujours gardées à vue à Ajaccio. Michel Colaccioni, vous êtes en direct avec nous de Corse. Les policiers pensent tenir le groupe opérationnel de l'assassinat du préfet Erignac et comme ils ne disposent pas de preuves tangibles mais simplement d'indices, ils veulent manifestement faire pression sur l'entourage des suspects.
Effectivement, faute de preuves, faute de charges formelles, qui manquent toujours depuis 15 mois quand même, les enquêteurs travaillent avec des présomptions lourdes. Vous disiez, pas de preuves, mais des présomptions suffisantes pour que le juge Bruguière poursuivre l'action psychologique tout en parvenant, il faut le signaler, à calmer le feu de la paillotte qui avait embrasé le monde médiatique ces derniers jours.
Dans la nuit du 21 au 22 mai 1999, 15 mois après l'assassinat du préfet, la DNAT interpelle quatre militants nationalistes, Alain Ferrandi, Pierre Alessandri, Marcel Istria et Didier Maranelli, ainsi que les compagnes de trois d'entre eux. Cette fois, les enquêteurs sont presque sûrs d'avoir mis la main sur les hommes du commando Erignac. Les quatre hommes sont immédiatement transférés à Paris pour être interrogés. Depuis le mois de janvier 1999, les policiers ont accès à l'ensemble des échanges téléphoniques passés dans le périmètre de l'assassinat du préfet. À l'aide d'un nouveau logiciel, ils recoupent, trient, analysent les 3600 appels émis au moment du crime. Ils arrivent à en isoler 8, intéressants, passés entre 20h16 et 20h57, entre le secteur de la préfecture et celui du théâtre. Le premier correspond à un téléphone portable de l'hôtel Grand Bleu à Cargès. Le second à une compagnie de location de voitures. Les caractéristiques des échanges répétés et courts pourraient correspondre à l'organisation de l'attentat. Les enquêteurs identifient rapidement les utilisateurs potentiels de ces téléphones, Didier Maranelli, comptable à l'hôtel, et Alain Ferrandi, propriétaire de l'entreprise de location de voitures. Les deux hommes sont des nationalistes connus des services, comme on dit. Les enquêteurs le savent, tout se jouera pendant la garde à vue. Les quatre suspects commencent par nier. Ils ont tous un alibi que leur femme confirme. Mais au bout de quelques heures, l'épouse de Didier Maranelli craque. Puis, c'est au tour de Didier Maranelli lui-même de vaciller dans la nuit suivante. Il reconnaît avoir participé à l'assassinat du préfet le soir du 7 février 1999. Il explique que le groupe des anonymes est composé de 7 hommes, dont 6 étaient présents le soir de l'attentat. Il détaille toute l'organisation du commando, le rôle de chacun, sans mentionner le nom de ses acolytes, qu'il remplace par des X. Mais après plusieurs heures d'interrogatoire, il se décide à donner les identités. Pour les plus importantes, X2, le tireur, et X3, celui qui le secondait en cas de défaillance ou d'imprévu. Il s'agit respectivement d'Ivan Colonna et de Pierre Alessandri. Ce même Alessandri confirme à son tour sa présence et son rôle. Enfin, Alain Ferrandi passe lui aussi à table. C'est lui le chef des anonymes et du commando. Sa femme indique l'avoir vu rentrer à la maison ce soir-là en compagnie de Pierre Alessandri et d'Ivan Colonna. Seul Marcel Istria nie toute participation. Pour les enquêteurs, c'est suffisant. Ses aveux circonstanciés corroborent les preuves téléphoniques. Il ne reste plus qu'à arrêter les trois protagonistes restants, Martin Ottaviani, Joseph Versini et le tueur présumé, Ivan Colonna. Oui, sauf que le 22 mai 1999, le journal Le Monde publie un article dans lequel il révèle que les auteurs de l'assassinat d'Erignac ont été arrêtés. Et le même jour, Ivan Colonna, en Corse, organise une conférence de presse sur TF1.
Moi, je ne peux pas empêcher la police de faire son enquête. C'est pas mon rôle. Hein. Moi, personnellement, j'ai quitté le mouvement national. Je suis toujours nationaliste. J'ai quitté le mouvement nationaliste depuis 95, depuis fin 95. Et je ne milite plus, on m'accuse de faire, moi je dis qu'une chose, prouvez-le. Moi je suis serein par rapport à ces accusations. Alors peut-être qu'on a le profil des gens qui sont responsables de cette action, mais on n'y est pour rien, donc je ne vois pas pourquoi et cet acharnement. Maintenant, ça devient grave parce qu'on s'attend à tout. On s'attend à tout. Quand on présente des gens comme des assassins ou comme un peu des extrémistes, des radicaux à grand renfort de publicité, quand les noms sont jetés en pâture, et on peut s'attendre à beaucoup de dérives.
Le lendemain, Le 23 mai 1999, les policiers interpellent Martin Ottavini et Joseph Versini. Yvan Colonna, lui, est introuvable. La veille, il a pris le maquis. Nouvel échec dans l'enquête Erignac. La traque d'Yvan Colonna, elle, commence.
Retrouvez-moi au bord du lac, à la nuit tombée. Fuyez le palais par le parc, il faut y aller. N'emportez que le nécessaire, l'or et les bijoux. Abandonnez nos affaires, oubliez tout. Laissez sonner le téléphone, ne décrochez pas. Ne parlez surtout à personne d'autre que moi. J'ai déconné. Ne me demandez pas, ne me demandez pas. Paguerai la nuit entière, tout ira bien. Nous aurons passé la frontière au petit matin. J'ai des amis là-bas derrière, prêts à nous aider. Nous reviendrons quand la poussière sera retombée. Sans vous, j'embarque, mais s'il vous plaît, venez.
Le 25 mai 1999, Jean-Hugues Colonna, le père d'Yvan, ancien député socialiste, lance un appel à son fils.
Bien, je vais m'adresser directement à lui pour dire, Yvan, je veux te dire et te répéter que je t'aime. Et que c'est pour cela, pour ton fils, pour toi-même, pour ta défense avec nous, que je te recommande de te mettre à la disposition de la justice.
Pendant que la traque du principal suspect s'organise, les enquêteurs renouent les fils de plusieurs mois d'enquête. Au cours de leur garde à vue, les membres du commando Erignac expliquent leurs gestes et livrent de nombreuses informations. Ils reviennent d'abord sur la genèse du groupe des Anonymes. Âgés d'une quarantaine d'années, ces militants nationalistes de longue date, situés dans la région de Cargès-Hexagone, connus de la plupart des renseignements de police, se sont réunis autour d'une déception commune, oui, celle de voir la cause nationaliste originelle se perdre dans les méandres des luttes fratricides, de l'affairisme avec le milieu corse, ou encore des compromissions avec Paris. Pour relancer le mouvement, il décide une série d'actions à l'encontre de l'État, à Strasbourg, contre l'ENA, à Vichy et contre la gendarmerie de Pietrosella. Face à l'absence de réaction des autorités, il décide alors de passer à un niveau supérieur, l'assassinat du préfet de Corse. Par ailleurs, les membres du commando reconnaissent l'existence d'une deuxième cellule, appelée Cellule du Nord, située à Bastia. Ce groupe, les intellectuels, comme l'appellent les enquêteurs, se compose de deux professeurs, en fait. Oui, deux. Jean Castella, 43 ans, enseignant en histoire géo, et Vincent Andriuzzi, professeur de mathématiques. Selon le groupe de Cargèse, ces deux hommes s'occupaient des attentats sur le continent. Face à ces pièces du puzzle qui s'assemblent, il manque pourtant un élément central. Et pour cause, il est en cavale. Depuis ce jour de fin mai 1999, on est sans nouvelles d'Ivan Colonna. Les mois passent, puis les années. Son portrait est placardé sur tous les murs. Il devient familier, s'inscrit dans la mémoire des Français. Un visage qui s'impose, celui de l'ennemi public numéro un. Dans l'opinion, le statut de présumé innocent résiste mal à cette fuite. Les enquêteurs en ont la certitude. Ivan Colonna est toujours en Corse, où il bénéficie d'un réseau de soutien efficace et discret. D'ailleurs, il n'est pas rare de croiser sur les murs corses des inscriptions genre « Gloire à toi, Ivan ». Le mythe Colonna est en marche. Le 19 décembre 2000, après plus d'un an de cavale, le fugitif rompt le silence.
L'Est républicain rapporte qu'Ivan Colonna vient d'adresser une lettre manuscrite à l'hebdomadaire nationaliste Uribombo. Une lettre écrite en langue corse que son frère Stéphane a authentifiée avant d'en révéler le contenu au quotidien L'Est républicain et dans laquelle Ivan Colonna affirme ne pas avoir participé à l'assassinat du préfet. « Je ne comprends pas, écrit-il, pourquoi deux membres du commando m'ont désigné comme le tireur. C'est à eux de dire pourquoi ils m'ont accusé et c'est à eux aujourd'hui de rectifier leur déclaration. » Poursuit-il dans cette lettre. Marius Moraccioli, France Bleu, Radio Corse Frequenza Amour pour France Inter.
Le 2 juin 2003, le procès du commando s'ouvre devant la cour d'assises de Paris. Ils reconnaissent tous, comme ils l'ont fait en garde à vue, leur participation à l'assassinat. Tous, sauf Marcel Istria, qui lui n'avait rien dit au cours de son interrogatoire. En revanche, tous les membres du commando reviennent sur leur déposition et sur un point, la dénonciation de Colonna comme tireur. Et ils se rétractent. Ivan Colonna n'était pas présent ce soir-là. Quant à la stratégie de la défense, oh, elle est simple. Plaider l'acte politique. Colonna étant absent, il a été décidé de séparer son cas des autres. Cependant, l'ombre du principal suspect plane au-dessus des débats. Impossible de s'en défaire, on y revient toujours et encore. Et alors que le procès approche de la fin, le 4 juillet 2003, à plusieurs centaines de kilomètres de Paris, dans un meeting à Carpentras, le nouveau ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, interrompt le discours et prend la parole.
La police française vient d'arrêter Ivan Colonna, l'assassin du préfet. Je pense à cet instant à une personne, à Madame Erignac, qui a tant souffert, à son fils et à sa fille. Et cette arrestation, je veux la leur dédier.
Après 4 ans, 1 mois et 11 jours de cavale, Ivan Colonna est arrêté. Mais la phrase précipitée de Nicolas Sarkozy ne manque pas de faire réagir. En effet, vous l'avez entendu, il dit l'assassin de Claude Erignac, s'asseyant tranquillement sur un principe que manifestement il a oublié et qui s'appelle la présomption d'innocence. Malgré une interruption, le procès du commando va finalement jusqu'au bout. Le 11 juillet 2003, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Didier Maranelli à 25 ans, Martin Ottaviani et Marcel Estria à 20 ans et Joseph Versini à 15 ans. Voilà pour la cellule Cargèse. Pour la cellule du Nord, les deux professeurs, Jean Castella et Vincent Andriuzzi, sont aussi condamnés à de lourdes peines. Ils font appel. Reste le dernier procès, le plus attendu. Le 12 novembre 2007 s'ouvre le procès d'Ivan Colonna à la cour d'assises de Paris. Pour l'ancien fugitif, la bataille judiciaire commence. Depuis son arrestation, il n'a pas bougé, il se déclare innocent. Il n'a jamais appartenu au commando. La défense de Colonna a ses chances, puisqu'un an plus tôt, le 22 février 2006, les deux professeurs de la cellule du Nord ont été acquittés en appel. Leurs avocats ont réussi à démontrer que certains procès-verbaux avaient été trafiqués. Encore une fois, l'enquête et ses errements se retournent contre les forces de l'ordre. La stratégie de défense de Colonna s'appuie sur plusieurs arguments. D'abord, Pierre Alessandri, l'un des membres du commando, a adressé au juge d'instruction Laurence Levert et Gilbert Thiel, en charge de l'affaire, une lettre le 27 septembre 2004, un an après sa condamnation, dans laquelle il s'accuse d'être le tireur. Ensuite, les avocats de Colonna s'appuient sur l'absence de preuves matérielles. En effet, aucun élément ne prouve la présence de Colonna le soir de l'assassinat, et encore moins qu'il était le tireur. Tout repose donc sur les aveux circonstanciés des autres membres du groupe qui depuis se sont rétractés et sur les deux seuls témoins oculaires de l'assassinat. Pour France Inter, Christian Binner raconte leur audience au tribunal le 21 novembre 2007.
Ce sont les deux témoins, les deux seuls qui ont vu le tireur. Elles passaient à ce moment-là en voiture, elles étaient à 2 mètres du trottoir scène du crime, la mère et la mère conduisait, détonation, elle voit deux hommes. Le plus près est grand, mais dit-elle, je n'ai pas vu son visage, plutôt une silhouette, une ombre, mais il était grand. Et je regarde Monsieur Colonna, c'est clair et net, ce n'était pas lui. La fille voit aussi deux hommes, un brun, un blond, et le blond est en train de tirer vers le sol, qu'elle ne voit pas, une voiture en stationnement lui cache la victime. Blond, de taille moyenne, 30-35 ans, dit-elle, nos regards se sont croisés, à l'époque j'aurais sans doute pu le reconnaître, mais aujourd'hui, elle se tourne vers le box, je suis formelle, ce n'est pas Monsieur Colonna que j'ai vu le soir des faits. Ah.
Ce procès est aussi l'occasion de revenir sur le parcours de Colonna. Fils d'un député socialiste, il a adhéré tôt au mouvement nationaliste. Après les études pour devenir professeur de sport en métropole, il abandonne tout pour revenir sur l'île, devenir berger à Cargèse et défendre la cause indépendantiste. Une trajectoire singulière qui explique aussi l'un des tournants du procès. La ligne défendue par les autres membres du commando, celle d'un geste politique, symbolique et collectif, ne résiste pas à la fuite de Colonna et à sa stratégie de défense. Alain Ferrandi, le chef du groupe anonyme, condamné à perpétuité, est appelé à la barre. Yvan Colonna lui demande de proclamer haut et fort son innocence. Alain Ferrandi ne regarde pas Yvan Colonna, mais il répond « Je te connais, Yvan. Tu es un homme d'honneur. Si tu avais participé, tu le dirais. Par conséquent, tu n'y étais pas. » Dans la salle, le silence est lourd. Tout le monde comprend le double sens de la phrase. Le 13 décembre 2007, Yvan Colonna est condamné à perpétuité et fait appel. Le procès en appel, qui s'ouvre en février 2009, est émaillé de nombreux conflits entre la défense et le président de séance. Certaines informations ne sont pas transmises à temps aux avocats, ce qui provoque la colère des défenseurs d'Yvan Colonna. Pour marquer son opposition, l'accusé décide de quitter le procès. Les magistrats condamnent une chaise vide à la perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. C'est alors que la femme de Claude Erignac sort de son silence.
Je suis choquée par le manque de courage d'Yvan Colonna. Je n'ai jamais été préparée à tout ce qui m'arrive. J'ai perdu mon mari dans des conditions terribles il y a 11 ans. Durant tout ce temps, j'ai attendu que la justice passe et je me trouve confrontée une nouvelle fois à la fuite d'Yvan Colonna. Vous pouvez comprendre ma souffrance face à cette attitude d'évitement.
Finalement, un troisième procès est organisé au début de l'année 2011. Cette fois, Yvan Colonna change son système de défense. Il reconnaît avoir fait partie du groupe des anonymes, mais n'a pas participé à cette action. Le rebondissement de ce procès survient le jour où une lettre d'Yvan Colonna, envoyée depuis sa prison à Pierre Alessandri, datée de décembre 2010, est présentée. Elle est écrite en Corse. Elle fustige violemment les autres membres du commando. Le 20 juin 2011, Colonna est de nouveau condamné à la perpétuité sans peine de sûreté. Depuis, il clame toujours son innocence. Il aura fallu 13 ans pour que le dossier Erignac se referme. Il laisse derrière lui de nombreuses zones d'ombre dans le déroulé de l'enquête, dans les conflits larvés entre les différents services de police, dans les incroyables rebondissements qui ont émaillé son avancée et dans les atermoiements et contradictions des principaux accusés. Cette affaire met en lumière la singularité d'un conflit qui dure depuis bientôt 40 ans entre l'État français et une partie de son territoire. Face à cette situation, la République doit, en Corse, sans doute plus qu'ailleurs, s'en tenir à la maxime de Blaise Pascal, qu'avait noté Claude Erignac dans l'un de ses carnets, « La justice sans force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. »
tenerezza, un mio cuore maestoso e balsama di purezza, gioielli meraviglie, una circa
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'assassinat du préfet Erignac est notre invité, c'est Gilles Bertil. Bonjour.
Bonjour.
Ancien juge d'instruction à la section antiterroriste, vous étiez en charge avec deux de vos confrères de l'affaire Erignac. Avant d'entrer dans le détail, je voudrais savoir cette affaire, l'enquête et votre investissement dans l'enquête vous a laissé comme souvenir.
Bon, c'est le souvenir en premier lieu d'une enquête particulièrement difficile. En général, les affaires criminelles ne sont pas toujours simples à résoudre, sauf lorsqu'elles se passent dans la sphère familiale. Là, il faut bien comprendre que dans le domaine du terrorisme, qui est celui de la clandestinité, bien évidemment, à part les communiqués anonymes de revendications, on doit identifier les auteurs de l'association de malfaiteurs qui a perpétré le crime. Et ça, ce n'est pas une partie de plaisir et ce n'est pas simple à l'évidence.
Absolument, il y a un contexte très particulier.
Il y a un contexte très particulier, comme il y avait un contexte basque, comme il y a maintenant un contexte particulier dans le radicalisme islamiste. Mais c'est vrai que depuis la fin de la décennie 1960, la Corse a été secouée par de fortes turbulences qui ont vu porter sur les fonts baptismaux une organisation clandestine en 1976 et que ce mouvement clandestin et violent, faisant de la violence politique son principal argument, ce mouvement s'est atomisé entre différentes branches. Et il n'a pas été épargné par une dérive mafieuse contre laquelle les membres du groupe des anonymes, du groupe sans sigle ou du groupe sans nom, vous avez dit baptisé, c'est nous qui l'avons baptisé ainsi parce qu'il n'y avait pas ni de logo ni de sigle. Et d'ailleurs les membres du commando Erignac, pour ceux qui ont reconnu leur participation à l'assassinat du préfet et aux actions qui l'ont précédé, Strasbourg, Vichy et surtout l'attaque de la gendarmerie de Pietrozelle, ils ont expliqué qu'ils ne voulaient pas de sigle pour ne pas être récupérés. Et ces gens-là ont imputé à l'État français, ce qui est quand même un peu paradoxal, la dérive mafieuse de leur propre mouvement, en disant l'État n'a rien fait pour empêcher ça. C'est quand même un petit peu paradoxal. Et que ce soit Alain Ferrandi, Pierre Alessandri et bien d'autres ont expliqué qu'en définitive, ils voulaient retrouver à travers cet assassinat symbolique. Ils disaient on a assassiné un symbole, le symbole de l'État. Il y a quand même un homme. Et c'est un homme qui a pris 3 balles dans la nuque. Je passe sur le caractère héroïque de cette action. Un homme désarmé qui va au théâtre et qui est abattu comme un chien un soir pisseux de février.
Par l'assassin qui arrive dans le dos en plus.
Ça me fait un peu penser à la formule bien connue, je ne sais plus si c'était de Goebbels ou de Göring, mais quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Ouais. Là, il s'agissait d'un pistolet automatique Beretta volé 5 mois plus tôt, jour pour jour, aux gendarmes de la brigade de gendarmerie de Pietrozelle.
Oui.
Action perpétrée par le même commando. J'en termine juste avec la justification. Retrouver la pureté originelle de la lutte de libération nationale. Moi, s'il y a un mot qui me fait trembler en politique, c'est le mot pureté. Parce qu'on sait très bien que c'est pas un exercice où la pureté se voit dans toute son excellence et dans toute son ampleur. Mais quand on revendique la pureté d'un mouvement Ça me fait un peu penser au mythe du bon sauvage de Rousseau. Avant, c'était mieux. Oui, c'était peut-être mieux. Mais enfin, il y a un peu un aspect taliban dans cette affaire, de la manière de laquelle l'ont exposé ceux qui ont accepté de s'expliquer sur leurs motivations. Mais la plupart du temps, ces motivations étaient d'une extrême pauvreté.
Alors, vous arrivez sur ce dossier parce que vous êtes en charge de l'affaire contre l'attaque de l'ENA à Strasbourg, entre autres. Et là, vous établissez un lien avec l'assassinat du préfet Rignac. Qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille ?
Ben, c'est surtout l'attaque de la gendarmerie de Pietrozelle, dont je suis en charge depuis la fin septembre 1997. Les faits ayant été perpétrés dans la nuit du 5 ou 6 septembre 1997. De quoi s'agit-il ? D'un commando qui va attaquer cette brigade de gendarmerie. Au retour d'une patrouille nocturne, il est à peu près 1h du matin. Le commando composé de 5 hommes plus un chauffeur qui reste à l'extérieur, s'introduit dans l'enceinte militaire, attend le retour de la patrouille. Lorsque le premier gendarme vient ouvrir le portail, il est neutralisé. Et le second, lorsqu'il gare le fourgon trafic dans l'enceinte de la gendarmerie, il est à son tour. Comme les bâtiments administratifs, plus exactement militaires, mais sont séparés du lieu d'hébergement des gendarmes et de leurs familles, cette entité de la gendarmerie est fouillée. On vole des effets vestimentaires et différents documents au sein de cette unité de gendarmerie. On laisse une charge temporisée et les gendarmes sont amenés dans le maquis, où on les retrouvera par la suite, alors qu'ils avaient été dans un premier temps bâillonnés et ligotés. Ils sont emmenés dans le maquis par le commando. Entre-temps, la gendarmerie explose du fait de l'engin temporisé, du fait de la déflagration de l'engin temporisé.
Et là, vous y voyez le lien après ?
Non. Les deux gendarmes se sont vus dépouillés de leurs armes. Et comme vous l'avez indiqué... L'arme est laissée en guise de signature, ce sont des pistolets automatiques Beretta, et c'est celle du gendarme Yerno, l'un des gendarmes pris en otage 5 mois auparavant, qui est identifié par le numéro de l'arme. Ce qu'on savait à ce moment-là, c'est que l'attentat contre l'École nationale d'administration à Strasbourg, Pietrozelle et Vichy, c'était sinon les mêmes auteurs, du moins le même groupe qu'il avait perpétré, parce qu'il y avait une communauté dans les revendications. La revendication de l'action de Strasbourg est strictement identique à la revendication de Pietrozelle. Et lors de la revendication des attentats de la nuit du 10 au 11 novembre de Vichy, vous comprenez bien quel était le symbole pour lutter contre l'État colonial, pour authentifier, parce qu'ils rappellent dans leur communiqué de Vichy que ce sont déjà eux qui ont frappé à Strasbourg et à Pietrozelle, pour faire bonne mesure, il renvoie la photographie de la femme d'un gendarme avec sa fille qui se trouvait dans le képi d'un des gendarmes de Pietrozelle, képi qui avait été volé. Ah oui, il dit c'est bien nous. Donc là, il n'y a pas de doute. On est en face d'un groupe qui a frappé 2 fois sur le continent et 1 fois en Corse. Alors... Et la signature définitive intervient le soir même, parce que ça on le sait dans les heures qui suivent, le soir même de l'assassinat du préfet Erignac.
Alors, l'enquête commence, et l'enquête est compliquée. Est-ce que vous, en tant que juge d'instruction, vous avez senti dès le départ qu'il y aurait des luttes internes entre la police judiciaire d'Ajaccio, la DNAT de Roger Marion, quel était son... comment il s'est comporté?
Eh bien, écoutez, chacun a choisi son camp, en quelque sorte. Je n'avais pas d'atome particulièrement crochu avec le patron de la DNAT, Roger Marion. Mais enfin, les sentiments comptent peu dans cette affaire. Par contre, mes collègues Jean-Louis Bruyère et Laurence Levert l'appréciaient plutôt. Bon, il a fallu trouver un consensus qui tienne à peu près la route. Mais où le feu a rapidement pris, c'est que le patron patron de la division nationale antiterroriste s'en est pris avec une virulence inouïe aux prestations du service régional de police judiciaire d'Ajaccio, dirigé à l'époque par Dimitrios Dragacci. C'est pas que le travail des premiers enquêteurs sur place avait été exempt de tout reproche, vous l'avez d'ailleurs signalé, le lendemain de l'assassinat, il y a quelqu'un qui a montré une douille qui n'avait pas été retrouvée. Ouais. Je fais simplement observer que ça se passe de nuit dans une rue mal éclairée et avec la panique que ça entraîne, pas chez les services de police, qui doivent faire preuve d'une forme de sang-froid. Mais il faut rappeler tous les troupes, on est un vendredi soir, avec des gens qui habitent à des kilomètres et des kilomètres. Enfin bref, ça n'a pas été parfait. Je suis pas sûr que le travail de Roger Marion ait toujours été frappé non plus du sceau de la perfection. Mais je dirais que ça, c'est un épiphénomène.
Ça vous a pas facilité la tâche,
Ça n'a pas facilité le bon déroulement de l'enquête. Mais vous savez, les institutions, pour critiquables qu'elles soient, et les hommes qui la servent, doivent aussi être appréciés dans le sens d'un jugement de valeur ou de non-valeur, en fonction de leur capacité à surmonter ces difficultés.
Bien sûr.
Et j'observe que dans une affaire difficile, pour les raisons que j'ai exposées au départ, on constate quand même qu'on a fini par trouver le groupe qui a perpétré l'assassinat du préfet avait pris toute précaution, bien évidemment, pour laisser le moins de traces possible.
Alors, est-ce que, par ailleurs, la période de cohabitation, la dimension politique de l'époque a pesé sur vos épaules ?
Pas trop, non. C'était pas une opposition, Monsieur Chirac à l'Élysée et Monsieur Jospin au gouvernement. En plus de ça, on a eu la chance d'avoir un grand ministre de l'Intérieur à l'époque qui était Jean-Pierre Chevènement. Ce qui a pesé, par contre, ce sont les extravagances de Monsieur Bonnet, préfet de la République, qui, en définitive, s'est cru investi, avait considéré que sa mission avait un caractère messianique, et ça, que l'on soit juge, que l'on soit préfet, ça ne pardonne pas. Alors effectivement, il disposait de la gendarmerie nationale qui lui était très très fidèle, service que j'avais saisi à l'origine dans le cadre de l'attaque de la gendarmerie de Pietrozelle, et comme on savait qu'on était sur le même groupe, ça laissait place à différentes possibilités. Et malgré mes mises en garde, la gendarmerie, je ne dirais pas dans son ensemble, mais un certain nombre de ses responsables a joué double jeu. Dès le moment où je m'en suis aperçu, je les ai dessaisis pour manque de loyauté et j'ai saisi la division nationale antiterroriste de ce qui était antérieur à l'affaire de l'assassinat du préfet Claude Erignac et en co-saisine bien sûr avec le service régional de police judiciaire d'Ajaccio. Mais tout ça n'a pas facilité la tâche et on s'est aperçu à travers les notes bonnets qui n'avaient pas été communiquées, qui ont été communiquées au seul Jean-Louis Brulière, qui ne s'est pas épanché exagérément auprès de ma collègue Laurence Nevers, ni de moi-même, puisqu'on en a appris l'existence par la presse, ce qui fait un peu désordre quand même, effectivement, Monsieur Bonnet, qui a prétendu, qui soutient encore qu'il avait un informateur, moi je ne sais pas si ce sont des éléments qui ont été collectés par la gendarmerie, qui ont été portés à la connaissance du préfet Bonnet, ou si c'est l'inverse. En tout cas, on constate la coïncidence entre l'émergence de ces notes Bonnet et le moment où il se fâche avec Roger Marion, parce qu'avant, il travaillait en bonne intelligence, puis m'exprimer ainsi.
Bien, alors, là on voit quand même toute la difficulté du travail. Hein. Bon, évidemment, après, il y a Colonna et sa longue cavale. On va d'abord écouter ensemble une petite archive. Hein. Il s'agit là de l'un des avocats de Colonna, Dupont-Moretti, maître Dupont-Moretti, lors du dernier procès d'Ivan Colonna, donc en 2011.
J'apprends que les membres du commando et que leurs femmes ont été interpellés le 21 et je me sauve pas. Je passe à la banque, je suis vu par des tas de gens, ma téléphonie démontre que je me suis pas sauvé. Alors vous comprenez, la difficulté, c'est toujours pareil. C'est la façon dont on appréhende la présomption d'innocence. Si l'on veut regarder obstinément Ivan Colonna comme un coupable, je vous garantis qu'on va trouver. Si on veut, ne fût-ce que 5 minutes en un mois, se dire que cet homme est peut-être innocent, voire innocent, alors il y a un certain nombre de choses qui s'expliquent. La présomption d'innocence, au sens vrai du terme, c'est ce que je suggère ici. Que 5 minutes, on essaie enfin d'entendre cet homme.
Gilles Bertil, concernant Colonna, c'est vrai qu'il y a une absence de preuves matérielles. Les témoins oculaires ne l'ont pas reconnu. Donc ça quand même, c'est sont des éléments forts. Qu'est-ce que vous en avez fait?
Sauf peut-être à l'époque des procès de Moscou, vous aviez des dossiers bien carrés, des gens qui avouaient, on sait dans quelles conditions. Il y a forcément toujours des zones d'ombre, vous savez. Les juges ne sont pas des devins. Ils essayent de reconstituer des histoires passées à travers les éléments qui sont ceux de la procédure. Alors, on peut toujours argumenter, mais je crains qu'on n'en ait plus exactement le temps, sur qui étaient les deux témoins qui ont assisté en direct à l'assassinat du préfet. Ce qu'elles avaient dit avant, ce qu'elles ont dit par la suite, ce serait trop long. Moi, je constate une chose. Monsieur Colonna a été mis en cause par son meilleur ami Pierre Alessandri, par Monsieur Maranelli, qui ne sont pas venus spontanément. M. Ferrandi l'a pas mis en cause parce que lui, il a refusé de détailler les rôles de chacun des membres du commando, mais il a reconnu sa responsabilité à lui, il a chiffré le nombre de membres du commando, et bien d'autres dans le commando initialement arrêté en mai 1999. M. Colonna se soustrait à la justice suite à ce que M. Jospin aurait pu qualifier d'une erreur d'appréciation des fonctionnaires de police alors dirigés par Roger Marion. S'il avait été arrêté tout de suite avec les autres, c'eût été grandement préférable.
Comment vous l'avez vécu ça, selon le fait qu'il soit en cavale? Ça n'a pas dû être facile, ça a été long.
Tout pécheur miséricorde, et je le dis dans le sens parfaitement laïque du terme. Enfin bon, c'est vrai que ça a été long. Plus de 4 ans pour le retrouver, mais je vous fais observer que ceux qui prennent le maquis, enfin monsieur Colonna appelait ça sa période de recul, elle a duré plus de 4 ans. Finalement, c'est la durée moyenne de ceux qui trouvent refuge dans l'île de Beauté, qui bénéficie de soutien, de véritables réseaux de soutien, et l'enquête sur la cavale d'Ivan Colonna, car il faut quand même appeler un chat, l'a démontré. Bref, 4 ans et quelques mois après qu'il ait été, que son arrestation n'ait pu être réalisée, on entend Monsieur Colonna. Et 3 juges dans le triptyque des affaires. Pietrozel, l'assassinat d'Irignac et les affaires encore ensemble. Quelle est son attitude? C'est, moi, je n'ai rien à voir et je refuse de m'expliquer. Refuse de m'expliquer.
Mais c'est la chaise vide, complètement.
C'est la politique de la chaise vide. Juste à ce que j'ai été confronté à ceux qui m'ont mis en cause. Lorsque cette confrontation intervient, alors que leur rétractation ne passe pas aux yeux des juges d'instruction, ne passe pas la barre, parce que les déclarations ont été trop circonstanciées. Vous avez cité la femme de Ferrandi qui dit, dans la nuit du crime, il y a mon mari qui est rentré donc à Alain Ferrandi avec Ivan Colonna et Pierre Alessandri. Et à un moment, ils sont ressortis parce qu'il y a eu un coup de fil de Marcel Marius Istria sur le coup de 5h le matin. Ils pensaient que les flics qui étaient autour. Comment on le sait, ça? Parce que Madame Ferrandi nous le dit. On ne l'a pas au dossier, on ne le sait pas, et ce sera validé par les autres. Bon, bref, après, c'est la politique de la chaise vide, et quand il finira par donner un alibi tout à fait à la fin, pour Pietrozel en tout cas, cet alibi sera démontré. Ivan Colonna a été jugé 3 fois, il n'y a que deux fois qui comptent, deux fois perpétuité, la justice a tranché.
Et l'audience est terminée, monsieur le juge, parce qu'il est, voyez-vous, l'heure en radio, après l'heure, c'est plus l'heure. Mais je vous remercie infiniment. Au revoir.
Au revoir.